Donc on va enchaîner sur une deuxième communication, toujours sur la jeunesse de la scène punk à Lyon. Donc Philippe Gonin va nous parler de Starshooter. À toi, Philippe.
Merci. Comme j'avais l'occasion de discuter avec Kent, je lui ai posé des questions. Oui, j'ai rencontré Kent d'ailleurs grâce à Pint, et je l'ai rappelé en lui disant, je lui avais demandé de venir et puis il est sur un gros projet. Je vais pas en parler, c'est à lui de voir. Enfin, il est sur un gros projet en ce moment. Il m'a dit, je vais pas avoir le temps, donc il est pas là. Mais il n'empêche que je lui ai posé cinq questions. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir lui poser des questions qu'on lui aurait pas déjà posées, qui vont pas l'ennuyer, etc. J'ai dit, écoute, je vais te donner cinq noms. Cinq noms qui ont un rapport avec Starshooter, et tu vas me dire ce que ça représentait et ce que ça représente aujourd'hui dans le parcours de Starshooter et dans le parcours de Kent, parce que de toute façon c'est juste la pochette du premier Starshooter. Et est-ce que ça représente, est-ce que ça représentait dans son parcours? Le premier nom, alors déjà Starshooter, est-ce que c'était un groupe punk? C'est la question que je pose à chaque fois que je fais une intervention dans Pind. Je réponds souvent non, et ici je vais répondre oui et non. En fait c'était un groupe de rock'n'roll d'abord. Pas un groupe de punk. Et c'est Philippe Manœuvre qui leur a dit un jour, ah mais vous êtes punk. C'est Kent qui le raconte, c'est pas moi, hein. Il l'a dit à Luc, et donc ils ont dit, bah on est punk. Et eux, leur idée, c'était juste de jouer vite et fort. Et de jouer du rock'n'roll. Pourquoi? Bah parce que quand ils étaient jeunes, ils ont commencé à jouer ensemble avant qu'on parle de punk, ils n'avaient pas les moyens. La musique dominante, m'explique Kent, c'était, dans le rock, c'était le hard rock, en gros. Et qu'eux, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des immenses Marshall, etc., du matériel qui leur permettait de faire du hard rock et d'avoir le gros son. Donc ils se sont dit, on va faire du rock'n'roll, ça marche aussi bien. Et il a été conforté dans cette idée par le fait qu'à ce moment-là, sont apparus aussi des groupes comme Eddie and the Hot Rods et compagnie qui faisaient du pub rock, et qu'ils se disaient, mais ça c'est bien, et si on faisait ça? Et une des phrases clés, en fait, dans la carrière de Starshooter, c'est « Mon père s'appelait Cochrane ». Et la deuxième phrase clé, c'est « Il est mort le jour où je suis né ». Parce que l'idée qu'ils avaient, évidemment, c'était de revenir vers ce rock'n'roll-là. Kent me disait, on aimait bien ça, parce qu'il y avait quand même des guitares qui crunchaient un peu, qui étaient un peu distordues, c'était pas du son clean, c'était un peu plus brutal que Buddy Holly, par exemple, hein, qui est aussi une des influences. Et dans ma vie, c'est du cinéma, il me dit, la chanson, elle a commencé par ça, t'es en bagnole, en train d'aller sur un concert, et puis mon père s'appelait Cochrane, et il est mort le jour où je suis né. Il s'est dit, mais finalement, le rock, il est né le jour où je suis né, et on est dans cette continuité. Et l'idée... La troisième phrase de cette chanson, c'est « Pour moi, ça n'est pas un drame, et je ne l'ai jamais regretté ». Parce que l'idée aussi qu'il y avait dans ces jeunes groupes à cette époque-là, au milieu des années 70, c'est-à-dire on va faire du rock'n'roll, mais il y en a assez des autres groupes, qu'ils nous laissent la place à nous. Eux, ça fait 10-15 ans qu'ils sont là, et ça suffit. Maintenant, on veut, nous, avoir aussi la place, avoir la chance de ça. C'est l'explication de Kent, hein, c'est pas moi qui parle. Et cette idée de se dire « on va faire du rock'n'roll ». Et d'ailleurs, si on écoute... les morceaux de Starshooter comme celui-ci, c'est du rock'n'roll pur et dur. Tu jouais vite, mais c'est du rock'n'roll. On peut mettre du son un peu.
Franchement, je ne connais personne. Non, 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 vraiment, personne qui en est autant. Que des disques introuvables que je jette à l'endroit du rire et ailleurs.
Et il savait jouer. Le piano, c'est une idée du producteur, Zakharopoulos. C'est lui qui a introduit le piano au moment de l'enregistrement du premier album. Claquement de main, tout ça.
Des 45 tours de rock, des 30 cm, de toute époque. Hey, que je ne suis pas prêt de bazarder. À n'importe quel prix, je veux faire les garder.
Voilà, 1,29. C'est-à-dire moitié moins que le format habituel radio des 3 minutes. Et on est. Celle-là, je la passerai après. parce que c'est le poinçonneur des Lilas, et je reviendrai, c'est un des 5 noms que je lui ai donné. Du rock'n'roll pur et dur, jouer vite et jouer fort avec le piano ajouté au moment de la production, c'est ce que je disais tout à l'heure sur nous, modestement, quand on est entré en studio avec notre 16 pistes, etc., qu'on a découvert ce que c'était qu'un studio, il m'a raconté exactement la même chose. Ils ont signé, ils sont allés faire ce truc, un vrai disque, un vrai 33 tours sur une major, et en studio, on leur a collé un producteur, et ils me racontent, quand ils ont vu arriver Zakharopoulos, ils ont mis qui c'est ce mec, un type... baba cool, énorme barbe, etc. Rien à voir avec nous, ce mec-là. Et en fait, si, il a produit tous les albums, et Kent a retravaillé avec lui après, d'ailleurs. Donc c'est un type qui a compté aussi dans leur parcours. Quand je parlais de rock'n'roll, la référence aussi qu'a Kent, c'est les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages. Donc vraiment, ce qui représentait le rock'n'roll, il ne m'a pas parlé de Johnny. Hein. Les Chats Sauvages, les Chaussettes Noires, c'est-à-dire le vrai rock'n'roll français. J'espère qu'il n'y a pas de fan de Johnny. Ici, il n'était pas très punk, lui, en tout cas. Et ça, c'était sa référence. Et au-delà de ça, évidemment, le rock'n'roll américain, et de préférence, Eddie Cochran. Une autre personne dont je lui ai parlé, une personne qui n'existe pas, c'est Betsy. Je reviens 2 secondes, parce que ça, j'ai oublié de le dire, sur cette image et sur celle-ci. Il y a un côté complètement dérision, provoque à 2 balles, etc. Et puis aussi un côté, on se rattache à Lyon. Et le rock'n'roll de Chuck Berry, c'est les bagnoles, les Cadillacs, les choses comme ça. Eux, c'est les 35 tonnes, c'est les camions Berlier. Hein. Alors pour les anciens Lyonnais, Berlier, ça parle. Aujourd'hui, bon, ben Berlier, je crois que les plus jeunes ont oublié ce que c'était, mais les Renault Trucks, c'était Berlier. Et c'était vraiment emblématique aussi d'une industrie lyonnaise de tout ça. Et donc eux, ils étaient là, habillés un peu comme des punks, mais il n'y a pas de crête, il n'y a pas de... etc. Donc il y a Mickey ici, qui était le bassiste, qui va bien, selon Kent. Il y a Philippe Danière, qui s'appelait Phil Pressing, qui vit aux États-Unis et qui répare des bateaux à Los Angeles, et qui, bon, a une page Facebook, allez la lire. Kent, dont on sait ce qu'il est devenu, et Jello, qui, paraît-il, a arrêté de jouer de la guitare il y a 25 ans, mais qui va bien aussi, selon Kent, mais eux, j'ai pas eu de contact avec eux. Donc, oui, Betsy Party. Betsy, ça a été quand même le titre emblématique. Je lui ai dit, mais c'est marrant, tu reprends ce Betsy dans ton dernier live. Il reprend Betsy et une autre chanson dont je parlerai à la fin. Il dit oui, parce que Betsy, quand on parle de Starshooter, les gens parlent de Betsy. Et Betsy, c'est une chanson. Alors, est-ce que c'est une légende qu'il veut entretenir? Est-ce que c'est la vérité? Il a rêvé cette chanson. Il était en train de dormir, je sais pas où, peut-être dans le camion pour aller je sais pas où. Et... il a rêvé complètement cette chanson et il se voyait sur scène devant 10 000 personnes en train de chanter ce truc. Et il dit c'était un rêve parce qu'on jouait devant 15 personnes à l'époque. Et ils ont fait ce truc-là, Betsy Party, qui est devenu emblématique. Donc c'est quelque chose qui raconte aussi une histoire. J'en parlais avec lui, qui parle à tout le monde. Quoi. On va dans une fête, dans une boum, comme on disait encore à l'époque. On se retrouve dans une super villa avec des super nanas. On a jamais vu ça, une villa comme ça, jamais vu ça, une fille comme ça. Et puis il se trouve qu'au bout de la soirée, il se passe des trucs entre eux, etc. C'est complètement rock'n'roll et pas vraiment punk, en fait, comme histoire. Ce qui importe, je crois, c'est que la musique, si elle n'est pas vraiment punk, il y a 2-3 riffs qui le sont quand même. Hein, 35 tonnes, non, mais l'autre qu'on a joué hier soir, à toute bombe. Et Jenny, c'est complètement punk. Les autres sont un peu rock'n'roll, mais c'est le côté provoque, dérision un petit peu, qui fait qu'ils sont punk. Mais dans les textes, ils ne sont pas encore dans une revendication politique telle qu'on la verra plus tard chez d'autres groupes, et notamment chez les Berru. Enfin, on en reparlera à un autre moment. L'autre chose aussi qui est dans la provoque et qui rejoint ce que je disais, c'est-à-dire mon père s'appelait Cochrane, il est mort le jour où je suis né, et je ne l'ai jamais regretté, c'est de dire il y en a assez de ces groupes qu'on va monter en épingle, etc. Alors évidemment, si on parle des Beatles à Kent aujourd'hui, il dit mais évidemment que c'est formidable. Évidemment qu'un album comme Revolver, un album comme Sgt. Pepper's, c'est formidable. Mais à l'époque, on en avait ras-le-bol d'avoir ce groupe-là, qui était mort quand même depuis déjà 6-7 ans, être toujours le groupe représentant, etc., qu'on parle. Et puis d'ailleurs, dans la musicologie, il y a des Beatles Studies. Des punk studies, on va essayer de les mettre en œuvre, mais il y a des Beatles studies, il y a deux artistes qui ont droit à leur nom et studies derrière, c'est les Beatles et Madonna. J'en connais pas d'autres. Il n'y a pas de Pink Floyd studies, par exemple, ce qui, moi, me gêne un peu, puisque j'aime beaucoup ça. Mais les deux seuls groupes, c'est Madonna et les Beatles. Et donc, ce fameux Get Back, je ne vais pas le remettre puisqu'on l'a écouté tout à l'heure, mais qui reprend exactement la ligne vocale de Get Back. Sauf qu'il a mis des paroles dessus, on en a marre de cette musique de je sais pas quoi, enfin bref, etc. Et Get Back, et tout ça joué très très vite évidemment, on l'a joué hier soir, hein, ça va vite hein, quand même, hein, ça speed bien. Et les Beatles et Get Back, ça a une petite histoire, parce que comme on peut le voir ici, ce disque, ce 45 tours, est sorti chez EMI. EMI, c'est la maison de disques des Beatles. Et donc, ils ont enregistré, ils ont sorti le 45 tours. Puis un jour, il y a des avocats d'EMI France qui leur disent « Au fait, les gars, vous avez demandé aux Beatles, enfin aux avocats des Beatles, s'ils étaient d'accord pour que vous repreniez sur toute cette façon-là leur chanson ?»« Ah non, on n'y a pas pensé. » Et en fait, ils ont contacté les avocats des Beatles qui ont dit « Non, mais ça va pas, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et donc, ils ont fait interdire le 45 tours, ce qui lui a donné une certaine renommée, du coup, puisque 45 tours interdit, forcément, ça devient culte, ça devient mythique et on cherche. Voilà. Donc maintenant, bon, c'est ressorti sur des compiles, mais à l'époque, ça leur fait un petit peu de publicité. Un autre nom que je lui ai donné, c'est Serge Gainsbourg. Pourquoi ? Parce que dans le premier album, il y a une reprise du Poinçonneur des Lilas. Je dis, mais pourquoi, bon sang ? Alors, on connaît l'histoire avec Bijoux. Mais avec Bijoux, ça peut s'expliquer en partie, à mon sens, il faudrait qu'on creuse la chose, par le fait que Gainsbourg était chez Philips et Bijoux était chez Philips. Mais là, reprendre, alors qu'eux, ils sont chez Pathé et Maille, ça n'a rien à voir avec Philips, donc il n'y a même pas de « tiens, c'est mon copain de label, on va faire une reprise, on va chanter ensemble, on va ressortir le vieux de sa boîte pour faire du rock'n'roll ». La référence, pour lui, c'est les vieux Gainsbourg. C'est-à-dire l'époque 58-63, on a parlé ensemble de l'album Gainsbourg Confidentiel, où ils ne sont que trois, hein. Il y a Michel Gaudry à la basse, Elec Baxic à la guitare et Gainsbourg qui chante. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Gainsbourg, alors, il vendait 5-6 000 disques, hein. Pas plus. Melody Nelson, je crois que ça a fait 10 000 à sa sortie. Ce qui est que dalle, pratiquement. Hein. Pour un type qui venait de faire Je t'aime moi non plus, qui s'était vendu à 10 millions, qui lui a valu les foudres du Vatican, etc. Le seul avantage, c'est que pour Melody Nelson, comme il avait eu beaucoup de succès avec Je t'aime moi non plus, il avait eu beaucoup de pognon pour faire Melody Nelson. Donc des chœurs, des cordes, etc. Et en 75 de mémoire, il sort Rock Around the Bunker avec le Nazi Rock. Enfilez vos bas noirs, les gars, ajustez bien vos accroche-pas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va danser, on va danser le Nazi Rock. Ce qui était de la provoque pure. Je rappelle pour mémoire quand même que Gainsbourg était juif et qu'il chante une chanson « Je porte la Yellow Star », c'est une étoile de shérif sur laquelle il y a écrit « juif ». C'est un truc qui est très très mal passé, ce 45 tours, Rock Around the Bunker et Nazi Rock. Je crois qu'il a fait une télé avec ça. Parce que derrière, ça passait très très mal. Donc il y avait quelque chose d'assez provoque chez Gainsbourg, on le sait, et d'assez punk, et ça intéressait ces jeunes. Et Kent disait, il y en a trois qui étaient possibles pour qu'on se rattache à la chanson française. Ça, c'est important aussi, quand on sait le parcours de Kent derrière. Il y avait Nino Ferrer, il y avait Jacques Dutronc, et il y avait Gainsbourg. Et on a conservé Gainsbourg, et on a fait cette version un peu déjantée aussi du Poinçonneur des Lilas. Autre nom extrêmement important, c'est Étienne Rodagil. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, Étienne Rodagil ? Étienne Rodagil, il écrit pour Julien Clerc. Il écrit le lac majeur pour Mort Schumann. Il neige sur le lac majeur, les oiseaux lyres sont en pleurs, et le pauvre vin italien... Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là, quoi ? Et en fait, il y a un personnage... Alors, je suis désolé, hein, le scan de la pochette, j'ai trouvé que ça... je crois que tu es le vrai, toi. Du 45 tours de Loukoum Scandale... Parole d'Étienne Rodagil. Quand on voit ça sur la pochette, on se dit, il y a un truc qui cloche quand même. Donc j'ai demandé à Kent, je lui dis, qu'est-ce que Rodagil vient faire ici ? Et en fait, il y a un personnage clé qui est extrêmement important dans l'histoire du rock en France, c'est Philippe Constantin. Philippe Constantin qui travaille chez EMI, qui a été aussi après... Enfin, par exemple, c'était le seul ami dans les années 70 en France de Roger Waters. Hein, quand on connaît le bonhomme, être ami avec lui, c'était déjà pas mal. Il obtenait des interviews de Roger Waters pour Rock et Folk. C'était pas courant, des interviews originales, pas des trucs comme on voit souvent, qui sont des traductions de trucs américains ou anglais, et qu'on nous fait passer pour des vraies interviews. Et par l'intermédiaire de Constantin, sur les labels, des choses comme ça, il rencontre Étienne Rodagil, et Étienne Rodagil était intéressé par Star Shooter. Et Étienne Rodagil dit à Kent, je cite Kent, qui cite Rodagil, « Toi, t'es un vrai auteur ». Il dit, je ne comprenais pas, parce que moi, j'écrivais des chansons un peu comme ça, sans trop réfléchir à la notion d'auteur. Il lui dit, toi, tu es un vrai auteur de texte, tu es un vrai auteur de ça. Et il l'a encouragé à écrire. Et par le biais de ces relations-là, à un moment donné, ils se sont retrouvés à faire une chanson, Loukoum Scandale, avec Étienne Rodagil. Il y a aussi une autre histoire, c'est que Rodagil faisait un truc avec Jean-Claude Vanier, qui était une sorte d'opéra. Et Rodagil avait plus ou moins demandé... à Starshoot de faire une chanson pour ce truc-là. Et Jean-Claude Petit a dit non mais ça va pas, on va pas prendre ce groupe là, machin, etc. Je suis pas d'accord. Mais ça a gardé des liens et donc ils ont fait Loukoum Scandale. Et je crois que je l'ai mise là, on va écouter un bout de... Allez, un petit bout de Poinçonneur des Lilas quand même.
Je suis le Poinçonneur des Lilas. Le type qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre. Trop de croisières. Pour que l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Rider du geste. Et dans ce bouquin il y a écrit que des gosses la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soif au fond d'une cave. Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Encore des petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous.
Voilà, Poinçonneur des Lilas, Étienne Rodagil, Loukoum Scandale. Pour terminer, la production chez Pathé de Starshooter, ça c'est le deuxième album, Mode, avec sa pochette double face A en fait. Cette année, la jeunesse sera intelligente et sexy. Alors on est radicalement dans une imagerie différente de celle qui était du premier album, du camion Berlier. On est dans des trucs, on annonce les 80s quoi. Quelque part, avec ce côté un peu truc qui brille, etc., fashion, machin. Et si on écoute le son, on peut comprendre que les gens à l'époque aient été un peu déstabilisés, c'est-à-dire que d'un seul coup, le son punk en tant que tel, c'est-à-dire un son qui est très compact, très, très, avec beaucoup de basses qu'on va avoir sur le premier album, très, très tassé comme ça, on l'a plus du tout ici, et on a même des productions qui sont un petit peu, alors, influence des 50s, etc. Je pense à cette chanson, notamment, qui longtemps m'a fait dire, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Aujourd'hui, je l'adore. Allez savoir pourquoi. Elle s'appelle Starlet.
Dans le dancing, très docile, elle se laisse admirer. Une fille trop jolie pour aimer. Noyée dans les sourires piégés des hommes qui la font danser.
Bon, c'était une époque où on dansait encore des slow dans les booms. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, je ne vais plus trop dans des booms, mais je crois que c'est un peu mort les séries de slow.
J'ai dansé toute la nuit à ses côtés.
Il y a une telle évidence dans cette chanson, quelque part, que on est dans la chanson. Et dans ce deuxième album, Mode, on a aussi une référence directe au rock'n'roll aussi. Cette façon de faire le riff et d'avoir le chanteur derrière, très blues, très rock'n'roll. Et le refrain. Alors, évidemment, ensuite il y a eu un album qu'ils ont signé chez CBS, un très très bel album, mais qui n'a pas été compris, qui n'a pas été suivi, qui n'a pas été vendu, ce qui fait que leur carrière s'est arrêtée là. Mais Kent m'a dit, si l'album avait marché, Starshooter aurait duré plus longtemps. Combien de temps, on ne sait rien, mais aurait duré au-delà de ça. Mais il faut bien se rendre compte que là, ça a été un échec et que manifestement, ils n'ont plus les moyens de continuer. La pochette du troisième album est assez intéressante parce qu'elle est réalisée par Kiki Picasso. Donc on est aussi dans un objet qui devient artistique avec un mélange avec le dessin. On sait que Kent est intéressé par le dessin, c'est lui qui réalise la pochette du dernier album d'ailleurs. Et cet album était vendu dans un sac plastique. Très difficile à trouver aujourd'hui, hein. Un sac plastique, et on avait tout le concept, c'est-à-dire que la conceptualisation de l'objet en tant que tel était aussi super importante, et on était allé vraiment collaborer avec un artiste, Kiki Picasso, qui par ailleurs tournait dans ses mouvements underground aussi à l'époque. Hein. Une petite chose pour terminer, que j'ai retrouvée en préparant ça, mais qui est assez significative de ce pourquoi on est là aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la scène lyonnaise. Et que Starshooter jouant à Lyon, c'était vraisemblablement, moi je ne les ai jamais vus, hein, salle pleine, etc. Mais là, ils sont en train de jouer à Roanne. Et à Rouen, Star Shooter passe en vedette. Et en première partie, il y a un groupe qui s'appelle Electrobus. Qui connaît Electrobus ? C'est un peu comme les groupes dont on parlait tout à l'heure. N'empêche que les gens étaient venus pour écouter. On était à Rouen, groupe rouennais. Les gens étaient venus pour écouter Electrobus. Ils ont jeté Star Shooter. Alors, je n'ai pas la date de l'article. Je l'ai retrouvé comme ça, sur une page Facebook quelconque, je crois. Et on voit bien, les vedettes de l'après-midi étaient Star Shooters, groupe rock de Lyon, fit son entrée en scène sous les huées du public venu en grande partie applaudir Electrobus. Les quatre musiciens lyonnais ont débuté sur scène en 77, etc. Bon, ils montrèrent aux jeunes leur hystérie collective dans un brouhaha de guitare électrique, le tout couronné en fin de spectacle par un copieux arrosage des spectateurs installés près de la scène. Bon, très bien. Ça veut dire qu'on était quand même dans quelque chose. Quand on voit des images de Star Shoot en concert, ça donnait quand même pas mal. Ça termine quand même par la foire à la brocante se poursuit de 8h à 18h avec un pot-au-feu. Donc on était dans ces choses-là. Voilà, globalement, comment on peut essayer de tourner. Je voudrais terminer avec une chanson, on en écoutera aussi longtemps que possible, pour montrer que aussi dès le deuxième album, il y a une mutation chez Kent, vraisemblablement. Les textes n'étaient pas tous écrits par Kent. Hein. Il y a des textes qui sont de Phil Pressing, notamment « Fais pas gaffe », je crois qu'il est plutôt de Phil Pressing. Sur « Gangster d'amour », il est de Phil Pressing. Sur « Saga », il est de Phil Pressing. Est-ce que ce sont des vrais crédits ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment écrit ces textes ? Ou alors, est-ce que c'est un partage équitable entre les membres de dire bah, « Tiens, on va te donner le crédit de celui-ci, toi tu rends celui-là pour que, histoire que tout le monde gagne à peu près le même pognon ?» J'en sais rien, je n'ai pas posé la question. Je ne la poserai surtout pas à Phil Pressing, en tout cas. Mais une chanson qui est une des meilleures, je crois, de ce second album, on est déjà en dehors du rock, on est déjà dans ce que Kent va devenir, à mon avis, c'est « Congas et Maracas ». Et je terminerai avec celle-là. Merci.
Congas et Maracas, licencié je m'en fous. Ce soir je fais la malle, ce soir je suis gourou. Plus de travail, moi danser, patron, plus m'engueuler. Ce soir tout oublié, demain je m'oublierai. Ce soir je serai noir, danseur né aux azous. Whisky coca pour toutes, j'ai des chèques en bambou. Demain moi plus quoi. Je vais jeter mes clous sur la musique dansée, même si je finis au trou. Congas et Maracas, Congas et Maracas, Congas et Maracas, Congas et Maracas.
Merci Philippe.